France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et à 8h30 ce matin, je reçois une personnalité aux multiples facettes. Elle est à la fois cinéaste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, autrice, actrice, compositrice, chef de chœur. Son engagement en faveur de l'écologie se reflète dans sa vie et à travers ses créations. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Bonjour Colline Serrault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Que trouvez-vous dans l'art que vous ne trouvez pas ailleurs?
Ah, ça, c'est la question du matin.
Alors, attention, voilà, on est parti.
Il va falloir faire une grosse disserte. Moi, je ne sais pas, on est tous nés pour faire un truc. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Bon, moi, je suis née pour faire ça. J'ai ça dans les pattes et il y a d'autres trucs que je ne sais pas faire. Il y a des gens formidables qui travaillent le bois. Il y en a qui sont des extraordinaires organisateurs. Il y a des hommes politiques plus ou moins bien, mais enfin, ils sont doués peut-être pour ça. Et voilà, chacun est doué pour quelque chose dans la vie. Et moi, je pouvais pas faire autrement que peindre, dessiner, faire des photos, faire de la musique. Voilà, c'était mon truc, quoi.
Voilà. En tout cas, on le sait, hein, vous êtes une réalisatrice militante. Vous faites dialoguer écologie et culture depuis de longues années. Avez-vous, Colline Serrault, constaté une évolution quant à la manière dont cette thématique du développement durable, de l'écologie, est abordée dans la culture?
Ah oui, j'ai noté une énorme différence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des films qui soient utiles pour la beauté, mais pour aussi la société. Alors, quand j'ai constaté comment était fabriquée la société, j'ai vu qu'il y avait deux désordres majeurs, qui étaient l'une, le patriarcat, qui était quand même un désordre épouvantable, qui n'a fait que des horreurs, et puis le deuxième désordre était celui de l'écologie, qui était d'ailleurs une conséquence directe de la façon de considérer la Terre et la mère et la femme d'une manière générale comme quelque chose qui doit juste servir, voilà. Et donc on est arrivé à un désastre écologique. Et moi, avec les films, j'essaye de créer des bulles de paradis, de beauté, qui, par leur existence même, luttent contre tous ces désordres. Je ne suis pas une femme politique, parce que une femme politique, vous devez dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je suis dans un monde dont je constate les désordres et j'essaye, par la beauté, par l'art, qui est la chose avec laquelle je peux m'exprimer, de donner l'envie d'autre chose.
Et ce message est-il plus facilement entendu aujourd'hui, en 2020, que par le passé?
Oui, parce qu'on approche plus de la catastrophe. Donc les gens commencent à être plus conscients. C'est sûr que par le passé, quand j'ai fait La Belle Verte, c'est pas le passé, hein, c'est pas il n'y a pas tellement longtemps.
96.
Oui, enfin, c'est le passé pour des gens qui sont très jeunes, mais j'avais commencé, moi, à faire des choses en 70. Donc, voilà, il y a très longtemps que je me bagarre. Mais c'est vrai que La Belle Verte, par exemple, ça a été un four épouvantable quand c'est sorti. Et puis maintenant, c'est devenu un film, sans envoyer des fleurs, mais un film culte, c'est-à-dire que les gens s'en servent pour penser autrement. Et c'est ça qui me réjouit d'un côté, parce que tout d'un coup, c'est devenu. Il y a une conscience qui est née, mais d'un autre côté, je suis triste parce que je vois bien qu'on va pas dans le bon sens, quand même, quoi.
Et c'est vrai que La Belle Verte est une fabuleuse fable écolo à voir, hein, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, Colline Serrault, mardi dernier, c'était la journée mondiale du climat. Nous fêtons aujourd'hui les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. On entendait hier Nicolas Hulot en parler comme d'un combat déjà perdu. Est-ce un sentiment partagé?
Oh, je pense que oui, sans vouloir être catastrophiste et pessimiste, il y a des énormes vertus de résilience dans l'humanité. Il y a la jeunesse qui a conscience, qui a de la force et qui trouvera des solutions, qui est inventive. Mais c'est vrai que les dirigeants actuels, c'est après moi le déluge, quoi. Ils ont pas tellement la conscience comme l'ont les femmes, parce que les femmes, elles sont proches des générations futures, bien plus proches. Eux, ils s'en fichent un petit peu, quoi, de ce qui viendra après. Ils sont dans le pouvoir et dans l'avoir. C'est vraiment la philosophie la plus intelligente, c'est de dire qu'on n'est que de passage et qu'on doit léguer à nos enfants un truc mieux que ce qu'on a reçu, en gros. C'est pas ce qu'on fait, voilà. Ils trouveront des solutions. La planète, de toute façon, on vivra très bien avec ou sans nous.
J'aimerais lire un extrait de ce livre que vous avez fait paraître chez Actes Sud, hashtag Colin Serrault, et vous nous écrivez ceci, l'humain dernier arrivé sur la planète parmi les diverses apparitions de la matière vivante s'est toujours vu, en tout cas dans le récit mythique des religions monothéistes, comme un achèvement, comme l'œuvre d'un dieu, une perfection enfin advenue après que toutes les autres créatures vivantes, et bien entendu inférieures, ont bredouillé des existences imparfaites. Que peut faire, Colin Serrault, l'art pour continuer à faire changer les mentalités, à sensibiliser?
Elle est bien, cette phrase.
Elle est très, très bien. Très juste.
Non, l'humain est le dernier arrivé. C'est un espèce de nourrisson informe dont la conscience, qu'il a érigé en une espèce comme un truc formidable. La conscience, c'est quelque chose qui l'empêche de voir, simplement. Et il est à un stade vraiment très infantile, l'humain. Il est en train de détruire son propre écosystème. Il n'y a aucune espèce vivante qui fasse ça. Je pense que c'est dû à son arrivée tardive dans le monde vivant. Ou bien il disparaîtra et ça sera un ouf de soulagement pour tous les autres vivants, les animaux particulièrement, puis bien sûr les plantes. Mais ou bien il s'adaptera intelligemment à ce qu'est sa vraie nature, c'est-à-dire un cosmos comme une espèce de soupe dans laquelle il doit trouver sa place, pas plus, pas moins que les autres, quoi. On partage et on échange, il y a des bagarres aussi, mais je veux dire qu'il a une place dans ce cosmos, l'humain, mais pas prépondérante. Il va falloir que cette grande blessure narcissique de se dire « je suis pas le mieux » advienne. C'est-à-dire « je suis pas le mieux, il y a plein de trucs mieux que moi, n'importe quel arbre est beaucoup plus intelligent que moi, eh bien je vais essayer de m'en inspirer et de comprendre à quel point ils sont sages, intelligents et depuis combien de temps ils sont là et comment je devrais peut-être faire comme eux. Voilà. »
Un extrait de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, le choix musical de notre invité ce matin, Colline Serrault, est avec nous. Bach, qui fait partie de ceux qui ont façonné votre parcours, votre réflexion. Je crois que vous l'écoutez même lorsque vous écrivez, Colline. Que vous murmure-t-il ?
Oui, ah ben, de toute façon, j'en joue déjà tous les matins avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est ce qui me met en route pour la vie. Et puis, là, ce qu'on a entendu, le Erez Aedia Gott de l'Oiseau, c'est bien, ça tombe bien, en plus c'est en décembre. Nous, c'est un de nos tubes. C'est un de nos tubes dans le chœur que je dirige. Et on le chante tout le temps. Et c'est une espèce de prodigieuse vitalité et des complexités. En même temps, ce qui est génial avec Bach, c'est cette espèce de... cette complexité. Et c'est admirablement écrit. Le thème de la fugue est complexe. C'est compliqué comme rythme, etc. Et ça se décline de manière totalement naturelle et simple. Ça, c'est vraiment Bach. Et c'est quoi la question que vous posiez?
La question était de savoir ce qu'il vous murmurait, Jean-Sébastien Bach.
Là, il me dit... c'est quand même une musique très... pour Gott et tout ça. L'interprétation, là, est extrêmement belle parce qu'elle est très, très, très vitalité, comme ça, vitalité, pleine d'énergie, un petit peu militaire pour moi. Il y a des moments où il faudrait que ça soit un peu plus doux, mais bon.
Enfin, on passera le message à John Elliott Gardiner, c'est promis. Vous nous dites ceci aussi, Colline Serrault, la facture, vous m'entendez ?
La vitalité reprendra toujours, la vitalité reprendra toujours. Et il glorifie Gott. Moi, à la place de Gott, je mets l'énergie, je mets l'univers, je mets la nature, je mets le cosmos. C'est pas grave. On peut dire Gott ou autre chose.
Et vous nous dites effectivement, la facture de sa musique ressemble à la musique de Jean-Sébastien Bach, ressemble à celle des arbres. Que voulez-vous dire par là ?
Oui, c'est-à-dire que vu de loin, si vous voyez Erez Aedia Gott, bon, vous avez la partie A, la partie B centrale, qui reprise de la partie A, tout semble très symétrique, etc. Les tugres distribués aux quatre voix qui reviennent d'abord par le haut, puis ensuite par le bas, etc. Ça paraît extrêmement mathématiquement... Et en fait, quand vous connaissez bien la partition, quand vous regardez de près, c'est un bazar, c'est une liberté, c'est tout le temps différent. Il y a des changements d'harmonie, il y a des changements de rythme à l'intérieur même des parties. Et c'est pareil pour les arbres, par exemple. Quand vous regardez un grand chêne très beau au milieu d'un champ, vous voyez un truc parfaitement équilibré, calaire, très symétrique et tout. Et vous rentrez dessous et c'est un bazar. Ça pousse dans tous les sens, les branches ici, là, à gauche, ça fait des coins, ça fait des angles. Mais parce qu'il y a une rigueur dans la, il y a une liberté dans la rigueur, une rigueur dans la liberté, et que c'est vraiment ces deux forces antagonistes qui fabriquent le monde tout le temps. Et Bach, c'est le plus fort là-dedans parce qu'il est un immense mathématicien en même temps qu'un homme libre.
Et c'est un monument également à l'égal de la nature qui brave les siècles, Colline Serrault. Si l'art participe à l'éveil des consciences, est-ce que les artistes doivent aujourd'hui aller plus loin ? Et je reviens à ces questions de développement durable, d'écologie qui nous occupent. Et surtout, que faire lorsque les salles de spectacle et les cinémas restent fermés ?
Oui. Alors ça, c'est vraiment un scandale, quoi. Je veux dire, moi, je prends le métro, hein. Régulièrement, je suis une personne qui prend le métro, j'aime bien être avec les gens. Si vous saviez comment le métro est bondé, si vous saviez comment les supermarchés sont bondés, alors que les salles de cinéma, les salles de théâtre et les salles de concert, vous imaginez la vie des musiciens en ce moment, depuis le mois de mars, il n'y a plus aucun concert jusqu'en janvier, février 2021, mais ils s'en fichent de nous, ils s'en fichent de la culture, ces gens-là. C'est vraiment des bœufs, des bonfs et des béotiens. Je hais ce mépris qu'ils ont pour la culture, pour nous, alors que la culture, c'est plus que l'automobile sur le plan économique dans ce pays.
Que l'industrie de l'automobile, effectivement.
Oui, mais je pense qu'en fait, ils ont peur de nous. Voilà. Ils ont peur de ce qu'on dit, de notre vérité, mais de ce qu'on dit, de ce qu'on parle. Alors, les salles de spectacle et tout ça, les salles de concert, les musiciens, ils ont dépensé des sous pour faire des choses hyper dans les clous sur le plan de sanitaire, etc. Et on leur remet ça dans la figure, comme les restaurants et les cafés. Mais dans les cantines, les gens s'écrabouillent dans les cantines d'entreprises, et on n'a pas le droit d'aller dans un restaurant où ils ont tout fait pour nous éloigner. Non, mais je veux dire que tout ça, c'est Big Pharma qui dicte la politique de ce pays, c'est tout.
Et c'est vrai que c'est d'une grande tristesse. On va continuer à suivre ce sujet plus qu'important, évidemment, sur France Musique. Colline Serrault, quand même, on vous le souhaite, avec la réouverture des salles dans les mois à venir, des concerts à venir au mois de mars avec votre chorale du Delta que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis cette exposition dont le vernissage a lieu tout à l'heure à 17h, galerie éphémère située 52 rue François Coudreux à la Charte-sur-le-Loir. Pour ceux qui nous écoutent, des photos, des dessins, parce que vous êtes une artiste protéiforme, je le disais, Colline Serrault. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on se quitte avec votre autre choix musical, Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille, quelle merveille. Merci beaucoup, Colline.
Merci à vous. Merci.
Et à très bientôt.
Bonne matinée.
Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille, pour clôturer bien cette rencontre avec Colline Serrault ce matin sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.